Quand le soleil se lève deux fois. J'ai dormi comme une masse, une enclume. Peut-être bien comme la tour Eiffel tout entière. Je filme lavé pour ressembler à quelque chose. Il fait encore nuit noire et tout le monde doit dormir dans l'hôtel. J'ai probablement réveillé les clients des chambres voisines avec ma douche. Tant pis, ils ont bien fait du bruit tard hier soir quand ils sont rentrés de leur soirée en riant aux éclats dans le couloir. L'auberge est en haut de la rue principale. Je sors par l'accès de nuit et marche vers la poissonnerie d'Alexandre. L'air frais est incroyablement apaisant. Bien emmitouflé, il n'entre que par mes voies aériennes et me procure une sensation de fraîcheur intérieure, de renouveau. Je respire profondément en ouvrant grande la bouche pour jouir au maximum de cette bouffée de vie. J'en aurais presque la tête qui tourne. Il vient de pleuvoir, une grosse averse apparemment. Et l'odeur du dehors lavé est délicieuse. Cela semble se dégager à l'est, ce qui nous promet un joli lever de soleil sur la dent d'Auche. De loin, j'aperçois la lumière. Elle doit déjà être allumée depuis un moment. On ne peut pas dire que le travail leur fasse peur. Alexandre et son père ont le sommeil réparateur des navigateurs, court mais efficace. Je me réjouis de les rejoindre. Je sais qu'ils vont me faire du bien. Je les admire pour leur courage et leur générosité. En presque 60 ans de métier, le père d'Alexandre en a vécu des drames. Le corps du véliplanchiste, disparu depuis 8 ans, qu'on remonte un jour dans son filet et dont les chairs ne tiennent que grâce à la combinaison en néoprène. Une sorte de momie qu'il faut bien remonter dans le bateau pour la ramener au port, à la famille et à la dignité. Parfois pour permettre à la veuve de toucher enfin l'héritage du défunt et s'occuper décemment de ses orphelins, jusque-là privés des biens de leur père parce qu'il est seulement déclaré disparu. Pas de corps, pas de mort. Quand il faut aller prévenir la femme d'un collègue que la voiture de son mari est toujours sur le port, qu'on a retrouvé son bateau, vide. Et pourtant, tous les matins, il est là, son couteau à la main, à détailler les filets pour les clients du jour, en se gardant de se plaindre de la météo, de ce qu'il gagne, des mauvais jours sans poisson, parce qu'il sait que personne ne l'écoutera, et que ça ne sert à rien. Ça s'appelle l'humilité. Une profonde humilité. Simple, évidente, inconditionnelle. Je comprends, en pensant à tout cela, à l'approche du bâtiment, que c'est de cette noblesse d'âme-là dont j'ai besoin pour remonter à la surface des eaux froides et profondes où un type a failli m'engloutir. Un type indigne qui passe son temps à se plaindre de payer trop d'impôts, à se demander quel investissement lui rapportera le plus pour sa retraite et comment mieux arnaquer le fisc en toute légalité. S'il avait à repêcher un mort, lui, il se pisserait dessus. La pauvreté n'est pas là où l'on pense, et le vrai courage des hommes n'est pas sous la peau d'un banquier qui brasse des millions sans entendre la misère de certains clients. Le vrai courage des hommes, il est dans les tripes de ces pêcheurs qui affrontent les vents violents, la bise glaciale, la vie quotidienne incertaine et l'impitoyable mort qui fauche et qui noie. Comme je me sens bien ici. Il est étonnant de constater que de retrouver des lieux et des gens que l'on a aimés profondément vous fait instantanément renouer avec les valeurs qui sont les leurs et que la vie vous avait fait oublier. Quand j'entre dans l'atelier, Alexandre s'approche de moi et m'embrasse. Il porte une parka jaune, un jean qu'il couvrira bientôt d'un pantalon en toile cirée, ses indispensables bottes blanches et son éternel bonnet rouge. Je l'ai toujours trouvé très beau, même à 6 heures du matin. Je l'ai toujours trouvé très beau parce qu'il dégage ce sentiment de cœur sur la main en continu. Prête? Oui. Tu t'es habillée chaudement? Je n'ai rien d'imperméable. Prends ça, me dit-il en me tendant un ciré et un pantalon imperméable. Je vais nager dedans. C'est conseillé de savoir nager, quand on va sur le lac. Si tu veux pouvoir nous aider, il faut t'équiper. Je ferai ce que je peux. Tu feras ce que tu veux. Si tu regardes simplement, je ne t'en voudrais pas. Je veux juste oublier. Tu compteras les poissons, ça te fera oublier le reste. Pour s'endormir, c'est les moutons, mais pour oublier, ici, c'est les poissons. Alexandre s'occupe de détacher le bateau, amarré pour la nuit au corps mort, de quoi le protéger des chocs en cas de vent. Il s'est couché de tout son long sur l'avant de la coque pour attraper la corde dans l'eau et détacher le cadenas. De voir son corps ainsi allongé me touche, sans que je comprenne pourquoi. Peut-être parce qu'un homme est plus vulnérable dans cette position que campé sur ses deux pieds, et qu'un homme vulnérable, ça a quelque chose d'émouvant. Peut-être parce que ça me rappelle d'autres moments où il était allongé ainsi, quand j'avais l'heureuse place du bateau. J'arrête de chercher à comprendre. J'aime le voir ainsi, c'est tout. Il a dû le sentir car il me regarde fixement, m'obligeant à détourner les yeux comme prise en flagrant délit. Je regarde dans le vague, en m'accrochant aux vagues, et en guettant du coin de l'œil, sans en avoir l'air, le moment où il sera retourné à sa tâche pour que je l'observe à nouveau. Nous partons dans la nuit, seuls, au milieu des lumières tout autour du lac. Le noir de l'eau a quelque chose d'effrayant et fait prendre conscience des dizaines de mètres de profondeur qui se trouvent juste au-dessous de nous, avec une paroi seulement épaisse de quelques centimètres de plastique pour nous protéger de cette immensité profonde et glacée. Le père et le fils ne se sont pas parlé depuis tout à l'heure. Inutile. Ils savent parfaitement qui fait quoi, pourquoi et comment. Parfois, un simple regard entre eux leur suffit pour se comprendre. Le moteur est coupé à la première balise. Alexandre la saisit puis tire le fil plombé d'un geste régulier. Le filet apparaît et les premiers poissons avec lui. Je commence à les compter, mais je me rends vite compte que je ne vais pas réussir à tenir la cadence. Son père les détache du filet au fur et à mesure pour les jeter dans les seaux où ils se tortillent désespérément. Mais c'est la vie. Plus trop la leur, certes, mais la vie. En forme de chaîne alimentaire qui décide que pour eux, ça se termine maintenant et qu'ils vont partir dans les protéines musculaires d'un être humain. Le même qui un jour donnera son corps aux asticots qui iront nourrir les poissons. C'est plus une boucle qu'une chaîne, en fait. Quand ils gigotent trop, le père saisit un petit bâton et leur tape plusieurs fois sur la tête, de quoi les assommer sans les tuer. Je n'ai jamais aimé ce moment, mais aujourd'hui encore moins. Parce que dans mon cœur, là, j'ai le souvenir d'avoir été un poisson qu'un homme a matraqué pendant des années. Étourdie, prisonnière d'un seau, la bouche grande ouverte, à chercher un peu d'air pour ne pas crever. Dans un dernier sursaut, grâce à Célestine, j'ai réussi à m'en extraire, à me sauver, à retrouver l'eau fraîche qui me réveille de ma torpeur, à ouvrir grande la bouche ce matin et à respirer de nouveau, à retrouver Alex et à respirer de nouveau, à être avec eux sur le lac et à respirer de nouveau. Je pleure en silence, de dégoût pour le passé, mais aussi d'émotion pour l'instant, pour ma fille, pour l'avenir. Alexandre, qui m'observe de temps en temps, voit bien que je chancelle. « Tu viens me relayer? Tu te souviens des gestes ?»« Évidemment que je m'en souviens. »« Ça va être lourd, il y en a beaucoup ce matin. Tu nous portes chance. » Il me provoque, car il sait que j'ai ma fierté, et qu'à chaque fois qu'il m'a dit que ce serait trop lourd pour moi, il me tenait à cœur de lui prouver qu'il avait tort. Il pose ses mains sur les miennes pour accompagner mes premiers mouvements, avant de s'écarter, heureux de constater que je n'ai rien oublié de ce qu'il m'a appris. Il va s'asseoir à l'avant du bateau et me sourit à chaque fois que je le regarde. Je fais un effort immense pour qu'il ne se rende pas compte à quel point je suis crispée, parce que les filets sont vraiment très lourds et que j'ai la sensation que mon utérus est en train de se détacher. Mais je chasse cette idée. Je serre mon périnée et je force un peu plus encore sur les bras, en regardant avec plaisir ces poissons qui apparaissent les uns après les autres, accrochés au filet comme des boules sur une guirlande de Noël. Celui que je suis en train de remonter est un filet calibré pour les ongles chevaliers, espèce rare et chère. Et la guirlande est incroyablement garnie ce matin. À croire que je leur porte vraiment chance. Cependant, je sais tout au fond de moi que je n'y suis pour rien, que j'ai un petit ange gardien qui doit s'amuser à leur faire croire que je suis leur porte-bonheur. Croire apaise. Peu importe que l'on ne croit pas à la même chose pour un même événement. Chacun joue avec la vérité pour la rendre un peu plus agréable à ses yeux. Pour eux, c'est grâce à moi. Pour moi, c'est grâce à Célestine. Il n'y a guère que les poissons que je sors de l'eau qui ne doivent plus trop croire à leur bonne étoile. Alors, par pure symbolique, je saisis le poisson suivant, je le détache et le relâche dans l'eau. Ça fait du bien aussi, parfois, de rendre sa liberté aux condamnés. Je souris bêtement au père d'Alexandre, qui me regarde étonné. Un humble chevalier, quand même. Celui-là, je ne pouvais pas. C'est une belle pêche et nous avons relevé presque tous les filets avant le lever du soleil. La pluie s'est effectivement éloignée vers l'ouest et s'est installée sur la pointe d'Ivoire, où le nuage est épais et les précipitations denses. Je me suis assise à nouveau à l'avant du bateau, tant les muscles me brûlaient, et je suis face au soleil. Il apparaît doucement au pied de la première pointe de la dent d'Oche, puis disparaît derrière elle, avant de réapparaître quelques minutes plus tard dans l'immense faille entre les deux pointes. « Tu as vu, Juliette? Ce matin, le soleil se lève deux fois !» me lance son père. « Ça veut dire qu'il brillera plus fort? Ça veut dire qu'il t'offre un joli spectacle parce qu'il sait que tu en as besoin. » Un peu poète, le père d'Alexandre. Aucun nuage au-dessus des montagnes. Il brille fort quasi instantanément. C'est à ce moment-là qu'Alexandre me caresse la joue du revers de la main, puis m'invite à regarder derrière moi. Parce que le soleil n'en a pas fini avec les jolies surprises. Il se reflète dans la grisaille d'ivoire pour former un magnifique arc-en-ciel qui part du village et s'étend jusqu'à la rive suisse. Évidemment, je me mets à pleurer. Comment faire autrement? C'est Célestine que je vois à l'horizon. Célestine qui me fait signe. Alexandre est venu derrière moi et me prend dans ses bras, dans un frottement de toile cirée. On pourrait bien rester collés que ça ne me dérangerait pas. Je lui explique l'image de la sage-femme, l'arc-en-ciel de cœur à cœur, mes croyances, cet amour dont je déborde et qui se matérialise au-dessus de ce lac où je me retrouve après m'être perdue. Je pleure beaucoup. Je me vide de tout ce que j'ai pu accumuler ces derniers jours, ces dernières semaines, ces dernières années. Je pleure pour me libérer, et mes larmes salées ne seront rien dans les milliards de mètres cubes d'eau douce tout autour de moi, mais comme c'est bon de les laisser sortir. Comme c'est bon de voir cet arc-en-ciel devant moi. Comme c'est bon d'être ici sur le bateau. Comme c'est bon de revoir Alexandre, son père, leur simplicité d'homme généreux et respectueux. Plus besoin de compter les poissons. J'oscille entre le soleil à l'est et la pluie à l'ouest. La lumière et l'arc-en-ciel qui s'estompent progressivement. Non, Célestine, ne pars pas. Pas tout de suite. Reste encore un peu. Mais elle n'est déjà plus là. Je ferme les yeux et je poursuis l'image au fond de moi. Le bateau a redémarré. Il avance à vive allure pour rentrer au port. Du travail attend Alexandre pour tout préparer avant l'arrivée des clients, qui mangeront ce midi ou ce soir un poisson qui frétillait encore ce matin dans la noirceur du lac. C'est ça, la vie. Et moi, je vais aller voir à quoi elle ressemble tout en haut des montagnes. Parce que là-haut aussi, je sais que je trouverai la paix. Et Babette, ma meilleure amie.